Bienvenue, vous écoutez Héroïne. Héroïne est un podcast qui donne la parole aux femmes qui font l'Europe. Elles vous racontent leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs échecs, et vous partagent leurs conseils.
La solidarité entre femmes, c'est aussi s'inspirer des histoires de chacune pour avancer. Alors avec Héroïne, on se demande quelle est la place des femmes à Bruxelles, un lieu de pouvoir très particulier.
Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour la saison 2 d'Héroïne. Nous reprenons ce projet après 2 ans d'absence. Effectivement, la reprise de nos vies, de nos activités sociales, ont malheureusement eu raison du temps que nous mettions dans ce projet. La vie a avancé, changé, et de nouvelles opportunités professionnelles et personnelles se sont présentées à nous. Mais nous reprenons cette série pour faire honneur à un projet spécial qui nous tient toujours autant à cœur. Sur cet épisode, il n'y aura que ma voix, celle de Margot. Fanny nous rejoindra sur les prochains épisodes. Cette nouvelle saison est un peu différente. Nous la faisons en partenariat avec le projet EU Gendering, une chaire Jean Monnet qui a pour but de créer une plateforme pluridisciplinaire qui permet aux chercheurs, chercheuses, étudiantes et étudiants, ou citoyennes et citoyens, de mieux comprendre les défis qui sont liés à la mise en place d'une union où l'égalité des genres, la non-discrimination et la diversité existe. Le projet EU Gendering veut devenir un outil pour construire des ponts entre les études de genre et la recherche sur l'Union européenne, le monde académique et la société. Le projet a un objectif de renforcer les liens entre les études de l'Union européenne et les études de genre. Dans cette saison, Héroïne portera la voix de ce projet, de celles et ceux qui œuvrent pour faire en sorte que l'égalité des genres soit un sujet pris au sérieux par l'agenda européen. Pour introduire ce nouveau projet et cette charge en menée, nous allons rencontrer Sophie Jacot, qui est à l'initiative de cette chaire. Sophie est chercheuse et professeure de sciences politiques à l'UCL Louvain sur le campus de Saint-Louis-Bruxelles et chercheuse au CRESPO et à l'ILEE. Elle est aussi directrice de l'Institut d'études européennes depuis 2022. C'est un épisode inspirant qui met en avant les difficultés que rencontrent les femmes dans le monde de la recherche. Elle nous parlera de doutes, de légitimité, de prise de parole ou encore de relations de pouvoir. Sophie fera aussi un éclairage spécial sur le genre et l'agenda européen. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Bonjour et bienvenue Sophie.
Bonjour Margot.
Alors tu es notre première chercheuse et professeure sur cette série Héroïne. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ?
Alors avec plaisir, ça dépend jusqu'où je remonte un petit peu. Mais mon parcours universitaire, j'ai commencé par faire des études de lettres et de langues, et ensuite de sciences politiques. Je me suis petit à petit spécialisée donc en sciences politiques sur l'analyse des politiques publiques et puis plus particulièrement des politiques européennes. Donc je suis devenue une spécialiste des études européennes. Et j'ai mon tout premier travail de recherche, c'était mon mémoire, mon équivalent de mémoire de master maintenant. Et il portait sur le lobby européen des femmes. Donc okay. En fait, j'ai tout de suite eu la volonté... par le biais de mon objet de recherche, de transposer des questions qui étaient importantes pour moi sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, de genre, même si à l'époque, alors il faut que je dise que ça remonte à quelques années. Et donc mon mémoire, je l'ai soutenu en 2001. Okay. Et donc on ne parlait pas de genre, on parlait très très peu de genre et il y avait même... En tout cas en France, parce que moi je suis française, il y avait même des polémiques assez importantes sur l'utilisation du mot genre qui était réfuté pas mal dans la sphère universitaire. Et il a fallu se battre pour que ça devienne légitime. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est d'avoir fait partie d'une génération qui a grandi intellectuellement et professionnellement avec des études de genre qui se structuraient en même temps, notamment institutionnellement. Évidemment, il y a depuis très longtemps des travaux sur les inégalités, sur le genre, mais la structuration véritablement, la cristallisation de tout ça, avec la naissance d'un champ universitaire, des gens qui reconnaissent, qui travaillent sur le même sujet, qui ont des revues, qui ont des conférences, des séminaires pour en parler. C'était assez contemporain à mon parcours. Donc ça, c'était quelque chose qui a toujours été très stimulant et très intéressant. Qui était aussi... Il y avait une émulation qui était très intéressante, d'autant plus que c'était en parallèle avec un champ mainstream qui, en tout cas, ça a été le cas pour moi. On reviendra dessus après, peut-être. Mais qui était assez hostile. Moi, j'ai eu un parcours très, très difficile. J'ai soutenu ma thèse en 2006. Donc voilà, j'ai mis 5 ans pour la faire. Et après, j'ai mis plus de 10 ans à avoir un poste fixe et à être arrivée ici, à Saint-Louis. Et donc, il y avait... une espèce de hiatus entre tout un champ des personnes, des travaux dans lesquels je me reconnaissais, où on était en train de construire des choses vraiment importantes. Et c'était très enthousiasmant, c'était très soutenant. Il y avait une solidarité, une sororité ici qui était en contraste fort avec un champ académique majoritaire pour lequel c'était beaucoup plus difficile de faire porter cette reconnaissance-là et qui, individuellement, pour moi, était... assez hostile et qui étaient des échecs après des échecs après des échecs. Voilà, en fait, quand tu me demandes de parler de mon parcours, c'est vrai que tout de suite, je viens là-dessus parce qu'il y a quelque chose d'identitaire pour moi à ce qu'est mon champ de recherche, les études de genre et l'Union européenne. C'est intrinsèquement lié à la façon dont j'ai vécu, je conçois mon parcours professionnel.
Tu parles d'échecs, tu dis que tu as mis plus de 10 ans à arriver à un poste chercheuse titulaire. Est-ce que tu penses que le monde académique est particulièrement difficile pour les femmes ? Et toi, est-ce que tu as eu vraiment des doutes à vouloir continuer là-dedans, à changer ?
Alors, pour moi, il y a... Alors, il y a des doutes, oui, plein, je reviendrai dessus, mais il n'y a aucun doute sur le fait que, oui, le monde académique, il est très dur, tout particulièrement pour les femmes. Ça a été largement prouvé par de nombreux travaux. Il y a une chose que j'aime bien, je ne sais pas si ça fait attention, en rentrant dans mon bureau, j'ai affiché sur le côté de l'étagère, c'est une des premières choses qu'on voit, un graphique que je prends tous les ans dans le rapport, le bilan social de l'université, où il y a une magnifique courbe qui est faite sur les différentes étapes de la carrière académique et en fonction du sexe. Et donc, depuis, quel est le rapport entre le nombre d'hommes et de femmes depuis la première année d'études jusqu'au grade en passant par master, doctorat, post-doc, prof et les différents grades de titulaires des profs. Et on voit des magnifiques courbes qui correspondent à tous les stéréotypes prouvant qu'il y a une domination absolue, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants, en particulier à Saint-Louis, puisqu'en plus on est dans une université où c'est principalement des sciences sociales et des sciences humaines, donc avec une surreprésentation d'étudiantes. Mais il y a aussi plus de doctorantes. Mais dès que tu commences à arriver sur des postes qui sont compétitifs, la courbe, elle s'inverse complètement. C'est-à-dire que le nombre de femmes, il décroît, mais il décroche, il tombe violemment. Et le nombre d'hommes, il augmente très, très fortement. Et dans les plus hauts grades de la carrière... c'est complètement inversé. Donc, dur pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus au niveau agrégé, voilà, structurel, systémique, et au niveau individuel, aussi. Quand on parle, en plus, moi, je fais partie de la commission de l'université, qui travaille sur la politique de genre de l'université, des petits groupes qui travaillent sur les violences. Donc, on le voit, hein, au niveau individuel, qu'il y a des relations de pouvoir, et donc il y a des violences. Et après, bon, il y a des choses aussi. On parle aussi de mon parcours personnel, mais je pense que moi, j'ai pu arriver ici finalement à avoir un poste comme titulaire parce que j'ai eu d'autres étapes avant dans ma carrière, et notamment le fait d'avoir fait un post-doc en Marie Curie, donc qui impliquait une mobilité. Ça arrive à des âges. Enfin, moi, j'avais déjà deux enfants. Je suis un exemple assez classique. La thèse, elle est en 30 ans, en moyenne. Après, donc, le postdoc, il vient après. Donc, on considère que les universitaires, il faut qu'ils soient complètement mobiles. Ils doivent être des électrons libres pour être compétitifs sur le marché académique, sans prendre du tout en compte que c'est des années de construction aussi individuelle, familiale, etc. Et donc, par exemple, moi, j'ai eu la chance que ma famille accepte de partir de là où elle était pendant 2 ans, de déraciner un moment comme ça, et ce qui, je pense, a joué dans le fait que j'ai pu avoir un poste plus tard. Voilà, enfin, je suis un exemple parmi beaucoup d'autres du fait que il y a soit des sacrifices qui sont plus, on va demander beaucoup plus fortement aux femmes dans la carrière universitaire, comme dans toutes les autres. Voilà.
Peut-être juste pour revenir sur les statistiques dont tu nous parlais, est-ce que tu as une idée de pourquoi les rapports s'inversent, quoi?
Pourquoi les rapports s'inversent?
On en a une idée, bien sûr, mais est-ce que tu as lu des choses sur ça? Est-ce que tu as une idée des facteurs qui rentrent en jeu?
Alors, donc déjà, il y a un facteur de génération qui est que il y avait beaucoup moins de femmes avant. Donc, dans les grades les plus élevés, on a beaucoup plus d'hommes parce que il y avait très peu de femmes auparavant. Donc, ça met du temps à rattraper. Mais il y a le fait que à chaque étape de la carrière, il y a des barrières qui sont mises aux femmes. Il y a des barrières qui sont liées à toutes les inégalités qu'on connaît, de charges en termes de famille, de responsabilités et de conciliation vie familiale, vie professionnelle qui repose très largement sur les femmes. Il faut être universitaire, ça veut dire, on est par exemple, tu peux pas faire une carrière sans aller dans des colloques internationaux, parce que c'est là que tu vas présenter ton travail, le faire connaître, nouer des liens, des collaborations, et c'est comme ça que ça se fait. Mais concrètement, partir en colloque, bon, alors il y a la question de la précarité qui va toucher tout le monde, qui va être très inégal, mais plutôt en fonction de l'université dans laquelle tu es, ton contrat, etc. Il faut partir 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il faut voir comment tu fais pour faire garder tes enfants, comment est-ce que tu vas organiser tout ça avec la vie privée, et,
Et moi, par exemple, ça m'est arrivé régulièrement de renoncer à participer à des colloques parce que c'était trop compliqué logistiquement, par exemple. Donc c'est des petits, mais en fait, ce sont des petites choses qui s'accumulent, qui sont que tu le vois. Tous les mécanismes qu'on connaît, ils se jouent à plein. Tu te sens une légitimité moindre à intervenir dans un séminaire, à parler en public. Ça, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Moi, je me fais encore violence parfois. Et c'est quelque chose qui est distribué de façon absolument genrée, on le sait très bien. Donc tous les mécanismes d'inégalité, ils se retrouvent et ils s'accumulent d'étape en étape. Voilà.
Par curiosité, en tant que prof, justement, toi, qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour mettre plus à l'aise tes étudiantes ou pour les pousser à sortir de ces... De ces rapports un peu genrés qu'on peut avoir.
C'est quelque chose qui est assez facile à gérer, il me semble, quand il y a des petits groupes. Quand il y a des petits groupes, ça va être à la fois... Donc j'ai toujours une prise de parole, au minimum une fois en début d'année. Sur ces questions-là, pour rappeler que la prise de parole, elle est inégalement distribuée. Et que c'est quelque chose auquel je fais attention, je fais de l'action positive. Je vais aller interroger plus les étudiantes que les étudiants. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de façon systématique. Ça joue aussi sur l'atmosphère que tu entretiens en cours. Moi, j'assume assez bien d'avoir une atmosphère assez cool et plutôt relativement informelle, je pense, en cours, en espérant que ça aide un petit peu. En plus, mais ça se résout pas dans les grands groupes. Et parce que aussi dans les grands groupes, l'atmosphère cool, ça marche pas. Les façons de pouvoir corriger, notamment les inégalités de prise de parole, etc., c'est compliqué. La seule chose que moi, je me dis que je peux faire, c'est d'essayer de montrer aux étudiantes que déjà, il y a des profs femmes. des profs femmes qui ne sont pas... Moi, j'arrive maintenant sans trop de... ça paraît très bête, mais pour moi, c'est important. Je vais faire cours comme je suis. C'est-à-dire, je suis en basket, je vais faire cours en basket. Je ne joue pas à m'habiller en prof pour faire cours. Ça veut dire que je considère que j'ai la légitimité d'être la prof et que j'ai pas besoin d'enfiler mon costume de prof pour être légitime à être sur l'estrade. Mais ça m'a pris longtemps. C'est pas une évidence. C'est pas une évidence du tout. Quand j'étais plus jeune et tout ça, je me déguisais pour venir en cours. Enfin, je me déguisais, je mettais systématiquement une veste, je mettais des chaussures, je mettais pas mes vieilles Converse. Et ça, c'est terminé. Et je pense que ça, parce que en fait, quand tu fais cours, c'est du théâtre, c'est une représentation pendant 2 heures ou 3 heures, donc c'est déjà beaucoup. Et faire en plus de devoir jouer et devoir surjouer la légitimité, c'est un poids mental supplémentaire quand tu fais cours. Et donc déjà montrer que, en fait, c'est loin d'être évident d'assumer le regard de... Moi, j'ai eu d'étudiants qui considèrent que... T'es pas légitime, clairement, parce que t'es une femme, là, tu ressembles à pas grand-chose avec tes converses, justement, et ton jean et tout ça, et t'es pas ce qu'ils attendent, ou ce qu'ils s'attendent, plutôt, à voir quand ils arrivent. Et il faut pas se laisser questionner par ça. C'est pas du tout évident. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important à montrer aux étudiantes aussi. Et d'une façon ou d'une autre, je mets toujours un peu de genre dans mes cours, même quand c'est pas le sujet. Et je trouve que c'est important et que ça fait aussi passer des messages et que ça joue aussi sur une ambiance, une atmosphère de cours.
Non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, sur ça. On avait eu un interview dans la saison précédente où justement c'était quelqu'un qui travaillait en haut niveau politique.
Ouais.
Et qui a tout arrêté, elle disait que ça lui faisait du bien de se réhabiller comme elle voulait, et de pas jouer un rôle constamment. Mm. Et je pense que ouais, c'est vrai que
Ouais, ça se joue dans des converses. Mais vraiment, je pense.
Converse, symbole.
Dans des baskets, ça, je ne pas donner de marque, mais oui.
Non, mais ça, c'est super intéressant.
Ça se joue, alors c'est très. Moi j'ai des tatouages, ça se joue aussi là-dedans. Je remonte mes manches.
Okay.
Et il y a tout un truc de. C'est pas mon corps qui est important ici. Il n'y a pas de question sur ma légitimité par rapport au fait de ce que je viens enseigner, quoi. Et de la position que j'ai.
Voilà. Parlons un peu de ton présent maintenant. Parce qu'on a parlé de ton parcours, enfin, même si ça touchait à ton présent. Alors, tu as.
Et au basket que je mets. Et
au basket que tu mets. Alors, tu as monté une chaire Jean Monnet. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chaire Jean Monnet et qu'est-ce qui t'a inspiré à mettre en place ce projet ?
Alors, je pense que pour expliquer pourquoi je l'ai montée, pourquoi je l'ai faite et ce qui m'a inspirée, il faut revenir assez longtemps en arrière. Et c'est lié à ce que je te disais tout à l'heure sur la façon dont le champ des études de genre il se structure et s'est structuré, et comment est-ce que c'était un combat et comment ça se donne pas du tout. Encore une fois, la légitimité, quand on travaille sur les études européennes, de travailler sur le genre dans ce cadre-là, par exemple. Et donc, pour moi, il y avait un enjeu à avoir une chaire Jean Monnet sur ces sujets-là, qui est d'afficher que, et là, en fait, l'Union européenne, elle m'aide à afficher dans mon université ou ailleurs où la chaire, elle peut. Il n'y a pas que moi qui dit que c'est un champ d'études qui est respectable, légitime, qui apporte des choses. J'ai le label de l'Union européenne qui sert à ça. Et qui sert à dire il y a des choses qui se font, qui sont intéressantes, qui sont légitimes tout autant que d'autres projets qui existent sur plein d'autres sujets. Et ça, c'est important pour moi. Et le fait que ça soit un combat, en deux mots, ce que j'ai vu aussi, moi, sur... En fait, j'ai travaillé aussi pas mal sur les politiques sociales, donc sur les politiques sociales européennes. Et donc, il y a vraiment tout un champ de recherche sur les politiques sociales où la question du genre et les travaux sur le genre dans les politiques sociales, il s'est structuré depuis bien plus longtemps que dans les études européennes. Et donc moi, quand je suis arrivée et qu'en fait j'étais jeune post-doc, j'ai travaillé dans un très gros projet de recherche qui était spécialisé sur les politiques sociales. Et j'ai vu comment est-ce que un petit nombre d'universitaires femmes, principalement nordiques, anglaises, ont fait pour avoir ce qui était véritablement une stratégie organisée pour imposer la légitimité de quand on étudie les politiques sociales, quand on étudie l'État-providence, il faut l'étudier avec des lunettes de genre. Et donc, elles ont monté une revue, Social Politics. À l'intérieur du projet, il y avait tout un parti du projet qui était concentré dessus, mais elles se sont réparties de façon organisée et concertée dans l'ensemble des axes du projet pour être présentes partout. Et toutes les conférences, chaque fois qu'il y avait un séminaire ou autre, il y avait une prise de parole et le genre dans tout ça. Qu'est-ce que vous en faites et systématiquement le mettre sur la table et rendre la question inévitable. Et alors, dans le champ des politiques sociales, pas que dans ce projet-là, hein, mais de façon générale, ça a marché. Espinger-Andersen et les théories principales sur l'analyse de l'État-providence ont petit à petit intégré le fait que s'il ne prend pas en compte la question du genre, son modèle, il ne tient pas. Ça a mis plusieurs décennies, mais véritablement, il y a eu une stratégie qui a marché. Et pour moi, mettre en place la chaire, ça participe de ce mouvement de cristallisation, d'institutionnalisation qui existe depuis une petite dizaine d'années sur les études européennes et le genre.
Et actuellement, sur quel projet, événement, vous travaillez avec cette chaire Jean Monnet ?
Alors, la chaire Jean Monnet, c'est beaucoup d'enseignements. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important. C'est dans les enseignements d'impulser, de mettre du genre dedans, dans l'analyse de l'intégration européenne. Mais c'est une équipe aussi, la chaire Jean Monnet. On est plusieurs, donc on impulse différents projets. On a des partenaires extérieurs, on a Euroin, évidemment. On a un think tank féministe, Gender 5+, avec lesquels on fait des projets, notamment des projets de débat public où on ne va pas rester uniquement entre universitaires. Mmh. Parce qu'il y a toute la partie de recherche où le but, c'est que la chaire, elle soit un petit réseau et elle soit un lieu accueillant pour principalement des chercheuses qui travaillent sur les études, enfin sur les institutions européennes et le genre. Elles peuvent venir à Bruxelles et on va les accueillir. Il va y avoir un bureau, elles vont pouvoir être là et mener leurs recherches. Et puis on va en discuter, on va faire des séminaires, ce qu'on fait classiquement, mais ce qui nous permet d'exister aussi sur les questions de genre. Et en plus de ça, ben, on essaye de ne pas rester uniquement entre universitaires et donc faire des débats où on va associer, justement, faire discuter, faire débattre universitaires, personnes de la société civile, politiques, membres des institutions, etc. Et donc, ça, on l'a fait sur la conférence sur le futur de l'Europe, par exemple, avec une perspective de genre. On a travaillé pas mal sur les questions d'avortement dans l'Union européenne aussi. Cet automne, on continue. Alors, on va continuer sur l'avortement, mais on a des séances, par exemple, qui sont prévues autour de la mise en œuvre du principe d'intersectionnalité qui est affiché très haut par la dernière commission. Mais on veut interroger un petit peu plus comment ça se traduit véritablement. Donc, voilà.
Alors Sophie, tu ne nous as pas exactement parlé de tous tes doutes que tu as eu dans ta carrière professionnelle. Est-ce que tu peux peut-être ajouter quelque chose dessus ?
Alors, oui, je disais un petit peu tout à l'heure, effectivement, des doutes, oui, énormément. Enfin, moi, Alors, il y a une première chose à dire, c'est que, en fait, ça peut être très dur d'avoir des doutes et on se fragilise. Et moi, j'ai eu des énormes doutes. Enfin, j'ai failli tout arrêter. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que j'allais pas non plus nécessairement être malheureuse. Après, ça m'a mis quelques années à accepter et à me rendre compte que je serais pas forcément plus malheureuse si je sortais de ce monde-là. Donc, c'était loin d'être évident. Mais une fois que c'était fait, je me suis dit, en fait, peut-être que la vie en dehors, elle peut, et la vie professionnelle en dehors, elle est épanouissante aussi. Des doutes comme ça, beaucoup. Donc ça peut fragiliser, ça peut être très dur avant de faire le chemin de les accepter et de passer par-dessus. Mais en tout cas, l'expérience que j'ai, moi, c'est que j'ai été rarement, ou en tout cas beaucoup moins confrontée à des collègues hommes qui avaient des doutes. Mmh. Et ça fait des carrières qui sont différentes, ça fait des attitudes, des positions qui sont différentes de d'être passé par aucune période de doute professionnel ou d'avoir peu de doutes sur la légitimité de
leur travail,
ouais, de la place à laquelle t'es et moi j'aime bien les gens qui ont des doutes et c'est dur mais de façon générale, après, je pense quand même que les gens qui ont des doutes, ils sont plus intéressants. Mais c'est dur, c'est difficile.
Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de l'état des lieux de l'égalité de genre dans les politiques de l'Union européenne ?
Alors, vaste question, mais en deux mots, ce que je peux dire, c'est que c'est très intéressant parce qu'on est en ce moment... Depuis 2019, dans un moment de foisonnement où il se passe, il y a un portage politique assez important, en particulier avec la commission von der Leyen, qui a une volonté politique forte sur ces questions. Le Parlement, qui historiquement a été vraiment un acteur très très important pour soutenir les politiques d'égalité au niveau européen et donc depuis 2019 il y a eu pas seulement des discours mais vraiment des avancées qui ont été importantes, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que bien évidemment après ce dont on se rend compte quand même c'est que quand tu rentres complètement dans le dur et qu'il doit y avoir des arbitrages, ben, c'est pas si évident que ça. Et la prise en compte du genre, de la diversité, de l'intersectionnalité dans le Green Deal européen, par exemple, c'est vraiment pas merveilleux. Ou encore dans les politiques qui continuent à être des politiques d'austérité. Après la crise, ça a été beaucoup le cas, mais encore aujourd'hui sur les politiques de relance post-Covid, etc. On voit que oui, ce qui est étiqueté politique d'égalité, politique de genre, il y a un boost important. Il y a des directives qui sont votées. Alors, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, hein, ça avance. En même temps, la prise en compte, et quand on a des sujets qui sont considérés comme étant plus importants et que ça se confronte en termes de prise en compte du genre, ben, on est plutôt perdant, quoi. Il y a pas mal de travaux très intéressants qui ont été faits pour montrer ça sur le Brexit aussi, par exemple. Okay. Voilà. Donc, c'est ambivalent. Mais en même temps, clairement, par rapport à aux périodes précédentes, depuis une dizaine d'années auparavant, on est plutôt dans une période assez fructueuse, où il se passe des choses positives, où il y a pas mal de textes qui ont été votés, qui sont encore en discussion, comme sur les violences actuellement. Et donc, il y a des initiatives qui sont très intéressantes. La grande question en ce moment, ça va être plutôt celle de après, qu'est-ce qui va se passer, et de la durabilité de tout ça. Avec une nouvelle commission, avec un nouveau Parlement, et le Parlement qui a toujours été si important pour les politiques d'égalité et la montée des populismes, clairement, risque de détruire tout ça.
Merci Sophie pour cette réponse. Sur quoi tu travailles actuellement, donc chercheuse ?
Alors, très très rapidement, alors, la chaire me laisse moins d'espace pour faire des recherches, mes sujets principaux, donc en dehors des politiques d'égalité pure en tant que telle, et de réfléchir à ça, je travaille pas mal sur les questions d'expertise en matière d'égalité, d'expertise juridique, par exemple, et comment est-ce que, par exemple, les institutions, elles organisent leur expertise sur les questions d'égalité, à qui est-ce qu'elles vont demander, comment est-ce qu'elles financent tout ça, qu'est-ce que c'est les orientations, est-ce qu'il y a des orientations idéologiques ou pas, et comment les structures institutionnelles aussi vont permettre l'existence d'une expertise critique ou non. Et quel espace il y a pour une expertise critique, pour une expertise qui puisse se revendiquer politique et féministe, par exemple, ce qui a été pendant des décennies absolument le cas au niveau européen, où la Commission a choisi des experts, par exemple, parce que c'est des personnes et des expertes qui travaillaient sur ces sujets-là et qui faisaient communauté avec l'ensemble des personnes qui visaient à soutenir ces questions. Aujourd'hui, la possibilité d'avoir une forme d'activisme par l'expertise en lien avec la commission, ça a quasiment disparu à cause des procédures budgétaires, etc., etc. Une légitimité bien moindre de tout ça. Voilà une des choses sur lesquelles je travaille. Je travaille sur les eurobaromètres, par exemple, aussi. Okay. Sur les partenaires sociaux, mais bon, voilà.
Très bien. Enfin, quelle référence tu donnerais à tes étudiants et étudiantes à lire pour les faire avancer dans leur réflexion, ou aussi à nos auditeurs et auditrices?
Alors, j'ai essayé de réfléchir à ça et de donner du coup une référence académique. Et sur mes sujets de recherche, à moi, je dirais que pour moi, il y a eu une référence qui était vraiment éclairante. C'était les travaux de Sylvia Wolby, qui est une sociologue anglaise, qui a notamment travaillé sur le concept de régime de genre. Comme il y a des régimes politiques, elle a contribué vraiment à construire la notion de régime de genre qui est de régime de genre de l'Union européenne, essentielle pour moi et je pense pour comprendre l'Union européenne et son rapport à l'égalité. Pour montrer la notion de régime de genre, ça permet de qualifier et de montrer en quoi il y a des petits bouts de choses qui sont différentes, des politiques, des discours, des conceptions sur lesquelles on s'accorde qui vont être dans un s'articuler pour créer quelque chose de structurel qui est le régime de genre de l'Union européenne et qu'on peut définir et donc on peut voir évoluer aussi et voir comment il est plus ou moins favorable et donc avoir une vision globale de ce que porte l'Union européenne en matière d'égalité. Et Sylvia Wolby, elle a aussi fait des travaux, je pense, vraiment très important, un bouquin qui s'appelle Crisis, par exemple, assez récent, après la crise de 2008, sur aussi les réponses apportées par l'Union européenne pour montrer dans quelle mesure les politiques qui étaient prises après la crise de 2008, mais après la crise du Covid aussi, étaient des politiques qui avaient des effets genrés très, très forts. Et en défaveur des femmes et qui donc clairement influer ce régime de genre de l'Union européenne, et que même si effectivement il y a un ensemble de textes, de directives dans les traités qui sont favorables, si à côté on fait des politiques d'austérité qui vont couper les services publics par exemple systématiquement, on sait que ce sont les femmes qui sont les premières utilisatrices de services publics, mais aussi qui travaillent dans les services publics, et donc la balance, elle va pas se faire, quoi. Et c'est avoir des politiques comme ça détériore clairement le régime de genre de l'Union européenne, et le règlement de la crise, il se fait à l'encontre des femmes. Voilà.
Merci Sophie. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, ou quelque chose que tu aurais voulu dire et que tu n'as pas pu dire?
C'est tout. Je vais juste dire merci Margot.
Merci Sophie.
J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller voir les différentes ressources que la chaire Jean Monnet met à votre disposition, à aller consulter leur site internet eu.gendering.eu ainsi que les différents réseaux sociaux. Nous reviendrons très prochainement avec un épisode au sujet un peu particulier, le mythe d'Europe. Est-ce que vous connaissez ce mythe? Aussi, si vous connaissez des personnes dont vous aimeriez entendre la voix, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions. Et enfin, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite !